Donc là, ici, on est sur une première espace. Là, c'est la rencontre entre les sons de la forêt donc, équatoriale, la bolivienne, et les forêts d'algues, donc les forêts sous-marines.
D'accord.
Et au niveau sonore, elle a mélangé les deux sons. Il y a eu plus de sons dans les deux endroits. D'où le bois qui est suspendu là au milieu de la pièce. Hein. C'est du bois, mais ça représente aussi un peu les algues.
Tout à fait.
Et la linéaire qu'on peut trouver ici sur les côtés.
Tout à fait, ouais. Mais c'est chouette.
Oui, vous allez voir. Et surtout, la structure la plus impressionnante, c'est le dernier étage, vous allez voir, qui est assez 3 mètres de haut. Et là, c'est le chant des vers. C'est des sons qu'on a enregistrés, donc, pareil, en collaboration avec des éco-acousticiennes. Des êtres des insectes qui vivent dans le sol, donc dans les Hauts-de-France. D'où le titre de l'exposition Invisible, puisqu'il y a plein de choses qui vivent dans le sol, on ne le voit pas forcément, mais c'est présent. Donc, c'est une structure, on rentre à l'intérieur et on entend tous ces bruits. Voilà, pas d'expérience incroyable à vivre.
Très bien, bah, je vais découvrir ça.
Aujourd'hui, on se retrouve avec Daniela Lorini, architecte et artiste, qui nous plonge dans l'invisible à l'aide d'ambiances sonores.
Je m'appelle Daniela Lorini, je suis bolivienne, artiste et architecte. Je suis née à La Paz, une ville au plein cœur de la cordillère des Andes, à 4000 mètres d'altitude.
Tu as fait des études d'architecture, puis des études dans le développement durable. D'où te viennent ces deux passions, d'un côté l'urbain et de l'autre la campagne ?
Et en fait, pour être honnête, j'aurais voulu étudier Beaux-Arts au début. Mais comme beaucoup de parents, ils te découragent au moment de choisir ta profession. C'est pour ça que j'ai choisi d'étudier l'architecture. Et mine de rien, j'ai beaucoup aimé le développement durable parce que bah, j'étais imprégnée depuis tout petit. Mon père est ingénieur agronome et environnementaliste. Ma mère biochimiste et je viens d'un pays très divers. Et biologiquement et culturellement, donc c'est quelque chose qui m'a attiré tout le temps. J'étais toujours à la campagne aussi, je voyageais beaucoup avec mes parents en découvrant la campagne bolivienne.
Est-ce qu'en tant qu'architecte, tu pourrais nous dire ce que tu penses de la ville de Brest après sa reconstruction précipitée d'après-hier ?
Même si pour beaucoup de personnes, on dit que Brest, c'est pas joli, moi je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les villes qui sont pas plates. Donc ce que j'aime bien de Brest, c'est tout ce côté ballonné et qu'on peut voir la mer de différents endroits. C'est un petit peu comme La Paz, que c'est une ville en plein montagne et d'où tu te poses, tu vois des montagnes. Et ici à Brest, tu vois la mer. J'aime beaucoup ça et je trouve qu'il y a des bâtiments qui sont même intéressants. Et on voit quand même l'histoire d'une ville qui a été bien frappée pour la guerre.
Alors, comme tu l'as dit, tu es bolivienne, tu as grandi dans une culture très ancrée autour des esprits, des choses invisibles que personne ne voit. En quelle mesure ça a pu impacter ton travail ?
Ma mère est très catholique, mais elle fait aussi quand même des offrandes pour la mère terre, la Pachamama. Donc depuis tout petit, on faisait des offrandes pour la Pachamama. En fait, tout est entouré des personnes qui croient, qui ont ce type de croyances. Et même quand tu te réveilles et quand tu vois les montagnes, et ils t'apprennent, et tu sais que c'est des gardiens, qu'il y a un esprit dans la montagne qui garde la ville. Pour moi, c'est vraiment important parce que moi, je pense que même si je ne viens pas d'une culture amérindienne, j'ai ce côté animiste de voir les êtres qui nous entourent, les montagnes, les rivières, les phénomènes météorologiques, mais les plantes et les animaux au même niveau que moi. Donc pour moi, c'est mes voisins de tous les jours. Donc je ne vois pas une hiérarchie entre les non-humains et les humains.
Est-ce que ta formation d'architecte a permis de mieux travailler ton côté artistique ?
Oui, justement parce que j'aime beaucoup travailler le volume, les installations. En fait, j'ai commencé avec la peinture et ça ne me suffisait pas. C'était les supports bidimensionnels, il y avait quelque chose qui manquait dans mon travail. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à faire des installations et ça, j'adorais parce que ça me permet de jouer avec le volume, la proportion, la lumière. Et mine de rien, je fais des installations avec à grande échelle, à moyenne échelle, parce que j'aime bien avoir ce côté un peu monumental, que ça t'impressionne. Donc oui, l'architecture est bien présente dans mon travail.
Tu as enchaîné une multitude de projets avec des bourses d'études que tu as décrochées, Depuis 2020, tu développes un projet sur les algues et les forêts sous-marines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Autant que bolivienne, on n'a pas la mer. J'ai eu la chance de connaître la mer grâce à mes parents qui m'emmenaient près de la mer, au Chili, en Argentine. Mais en Bolivie, on n'a pas la mer. Donc je connaissais presque rien sur la mer. Un petit peu la plage, et c'est tout. Et je me suis intéressée de plus en plus quand j'ai... En fait, je cherchais un matériel qui pourrait... aller à la place du cuir, mais c'est de côté de tuer l'animal, surtout que tu sais pas comment il est tué, comment il est traité, ça m'a cogité beaucoup la tête. C'est comme ça que en fait j'ai découvert les algues, parce que c'était un matériel que je voulais que soit translucide, souple. Pour moi, c'était vraiment une révélation vraiment au début comme un matériel. Mais en fait, je suis très curieuse, j'aime beaucoup faire la recherche. Surtout, ça m'intéresse beaucoup la science et bon, l'anthropologie aussi. Moi, que je connais les forêts tropicales et savoir qu'il y avait des forêts sous-marines qui sont presque de la même taille qu'une forêt tropicale, ça m'a impactée.
Dans le cadre de ces recherches, tu as été amenée à travailler justement sur les textures. Est-ce que c'est de là que vient ton inspiration pour ton exposition Invisible ?
J'aime beaucoup ça, chercher dans les petits, les choses qui peuvent passer pour anodins, parce que peut-être sont tellement petits qu'on ne les voit pas, on ne les aperçoit pas. Simplement parce que bah, ils sont là et peut-être ils sont pas assez impressionnants comme ça pourrait être je sais pas, une montagne. Beaucoup vraiment chercher les petites choses. Et qui peut passer pour des invisibles aussi. Et dans ces petites choses, on peut trouver aussi un univers hyper riche. Et bon, les textures qu'on peut trouver dans des algues ou quand tu sèches une algue, et comme les changements de l'algue, aussi on voit la matière vivante qui s'est transformée. C'est aussi très important pour moi de laisser la matière réagir aux éléments, soit chimiques, parce que des fois je les confronte aussi à la chimie, ou même juste aux vivants, les champignons qui s'installent dans la matière. C'est pour ça aussi que j'essaie de travailler avec des matériaux naturels, parce que aussi pour montrer que le vivant est présent et que le vivant se transforme et que peut faire ressortir des choses incroyables.
Tu as travaillé sur différents supports pour faire ton exposition et tes autres projets aussi, films, archives, enregistrements, photos. Comment tu fais pour créer ?
Pour moi, le son, c'est une manière différente de percevoir le monde. Et c'est comme pour les Guarani, c'est voir avec les oreilles. C'est un concept Yapisaka, c'est un concept Guarani qui parle de ça, justement, de pouvoir voir avec les oreilles. Pour moi, c'est un concept très, très beau, très poétique. Bah, maintenant, dans ce monde qui est saturé d'images, les visuels, ils viennent partout. On entend de perdre nos autres sens. Le son, pour moi, c'est vraiment une manière de se connecter, d'être plus présente avec les autres êtres vivants qui nous entourent. Quand tu es dans la forêt amazonienne, par exemple, il y a tellement de vie, il y a tellement de végétation que tu vois rien, mais tu entends tout. Donc je me balade avec un enregistreur. Dès que je peux, je fais des enregistrements, des paysages sonores. En fait, j'ai des archives qui datent depuis peut-être même avant que j'étais ici en France. Donc, au moment de créer mes œuvres, par exemple, si je voulais parler de la forêt, j'ai beaucoup d'enregistrements de la forêt. Et à la fin d'année, j'étais en Bolivie pendant 2 mois. Et en fait, j'avais déjà travaillé une œuvre qui s'appelle Koa. C'était une œuvre olfactive et je voulais incorporer le son dans cette œuvre. Koa, c'est une plante d'origine bolivienne, d'autres plateaux de la Bolivie, près du lac Titicaca. Et c'est une plante qu'on utilise beaucoup pour les offrandes. Et c'est une odeur très, très particulière. Donc aussi, les odeurs, que c'est des choses invisibles comme le son, elles sont présentes dans cette œuvre. Et quand j'étais en Bolivie, je voulais enregistrer une personne qui fait une offrande ou qui nous raconte comment elle fait son offrande à la Mère Terre en Aymara, en langue Aymara. Donc voilà, quand je voyage, je peux... En fait, il y a entre les deux, j'ai juste un registre, je garde mes sons pour peut-être après les utiliser. Au moment de la composition, je commence à mélanger tous ces éléments, la voix, des paysages sonores, et des instruments. Bon, c'est un processus, c'est un long processus.
Le nom de l'exposition, c'est l'invisible. C'est quoi ta définition de l'invisible ?
L'invisible, pour moi, c'est cette présence, une présence forte et une énergie qui est présente en tout moment.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui viendrait voir ton exposition ?
Je juste voudrais dire qu'il faut se laisser guider pour cette présence, cette énergie invisible. Ça peut être peut-être pour certaines personnes un peu trop farfelu, mais en fait pour moi, je pense qu'on perd de plus en plus cette connexion aussi avec ces énergies qui sont présentes et qui sont là, mais qui sont en train de les oublier, mais qui sont là. Pour cette expo, je pense qu'il faut prendre le temps et... Juste, y a beaucoup d'œuvres que je pense que c'est idéal de fermer les yeux et juste écouter et sentir.
Pourquoi être venue exposer à la Maison de la Fontaine ?
En fait, je suis déménagée en Bretagne l'année 2020. J'habitais à Lille et on a décidé avec mon compagnon de venir habiter dans les Monts d'Arrée. Et en fait, tu dois refaire tous tes contacts. Et ça, c'est un problème quand tu déménages dans un autre milieu. Donc, il faut commencer presque de zéro. Donc, c'est comme ça, commencer à faire, à regarder les institutions, les endroits pour des expositions. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai contacté Sabine, la directrice de la Maison de la Fontaine, et en parlant de mon travail, je montrais ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais envie peut-être un jour de faire une collaboration. Et c'est au moment quand j'étais en Bolivie, elle m'a contactée pour que je puisse venir faire la résidence et avoir l'expo. Donc c'était très chouette.
Est-ce que tu as un message à faire passer à travers cette exposition ?
De se retrouver et de donner la place aux non-humains qui nous entourent, qui sont nos voisins, qui sont à côté de nous, même on a des bactéries à l'intérieur de nous, donc c'est la nature elle est pour tous, nous sommes partie de ce tout, de ce système planétaire, et il faudrait donner l'appui d'ouvrir nos esprits aux autres esprits. Je pense que comme ça, si on entend et si on a plus d'empathie vers les autres, je pense qu'on pourrait construire un monde meilleur et pas tout accaparé. Et l'humain est en train de prendre tout et il croit vraiment qu'il est le centre de l'univers, mais cette planète est faite pour tous et tous ont le droit d'y exister, pas seulement nous les humains, sinon les non-humains et tout ce qui nous entoure.